50 ans, c'est l'âge d'Abbey Road, le dernier album studio des Beatles. J'ai appris cet été, je sais pas si vous le saviez, que cette pochette iconique où l'on voit les Fab Four traverser un passage piéton avait été prise en 10 minutes, que le photographe Ian McMillan avait installé un escabeau devant les studios vers 11h du matin pour éviter les fans et qu'il n'avait appuyé que 6 fois sur le bouton pour ne garder que le 5e cliché, vite fait, bien fait, pour une image aussi connue que la Joconde, décryptée et détournée par millions, qui incarne le groupe d'ailleurs, beaucoup plus que l'album ou les chansons. C'est l'une des qualités de la pochette de disque, essentiellement pop, par sa reproductibilité, elle a une existence indépendante. Et pas depuis longtemps, depuis qu'elle est illustrée en fait, depuis qu'elle n'est plus cette enveloppe en papier craft avec un trou au milieu. L'illustration n'apparaît en fait qu'en 1939, sur un 78 tours de la 9e symphonie de Beethoven, figurez-vous, grâce à un certain Alex Steinweiss, graphiste new-yorkais de 22 ans, qui va marquer, par son intuition, l'histoire de la musique et de la culture populaire. Après tout, c'est grâce à lui que tout le monde peut visualiser un disque ou un morceau, grâce à lui qu'on référence et qu'on partage autrement qu'en chantonnant maladroitement, grâce à lui tout compte fait qu'on a grandi avec des images telles que cette pochette d'Abbey Road qui, je le disais, vient de fêter ses 50 ans.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, puisqu'on parle d'incarnation avec son frère Noël. Il a incarné le groupe Oasis, la voix, le son, l'esprit des années 90. Depuis 2 ans, il s'affiche en solo. Son 2e album, Why Me, Why Not, sort demain. Bonjour Liam Gallagher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, pour vous, qu'est-ce qui fait une pochette mythique, tiens, Liam?
Me personally, I like being on the cover, you know what I mean?
Moi, perso, j'aime bien être sur la pochette.
So I like being on the, I like having my head on the cover.
J'aime bien avoir ma tronche sur l'album.
I don't know what makes a good cover, really.
Je sais pas ce qui fait une bonne pochette, en fait.
Like
il y en a des super, les Pink Floyd en ont fait des géniales. Et les Beatles, bien sûr.
Celle d'Abbey Road, justement, des Beatles, pourquoi est-ce qu'elle a tant marqué l'inconscient collectif, à votre avis?
What, is that the one that we're walking across the road?
Celle où on les voit traverser la rue.
It's just reality, isn't it? It's not...
C'est du réel, quoi. C'est juste une photo, toute simple, des Beatles qui traversent la rue. Tu vois les bagnoles garées au fond, le passage clouté. Si t'habites à Londres, tu vois ça tous les jours. J'aime bien les pochettes plutôt simples. Le design futuriste, c'est pas mon truc.
Quel est votre album préféré des Beatles, vous, Liam Gallagher?
Sgt. Pepper.
Sgt. Pepper.
I like them all, to be fair, but...
Je les aime tous, hein, en fait. Mais il y a des pépites dans Sgt. Pepper.
Il y a quelques mois, on recevait le réalisateur Danny Boyle pour son film Yesterday, qui racontait un monde dans lequel les Beatles n'auraient pas existé. Si ça avait été le cas, est-ce que votre musique serait ce qu'elle est aujourd'hui, tiens?
Les Beatles, c'est fantastique, mais il y a quand même beaucoup d'autres musiciens. Moi, je me suis plongé dans les Beatles après m'être plongé dans les Stone Roses. Pour moi, le premier groupe, ça a été les Roses. Et puis en écoutant leurs interviews, je me suis intéressé à Jimi Hendrix, Simon et Garfunkel, les Birds, les Beatles, Love. C'est le premier groupe que tu te mets à écouter qui décide de ta discothèque, en fait. J'aime mieux que les Beatles fassent partie de notre monde. Mais bon, ce serait pas non plus l'enfer, ni la fin du monde.
Vous leur devez quelque chose musicalement?
Moi, je dois rien à personne. Ils font leur musique, mais moi, je les écoute. C'est un échange. Quand tu fais de la musique, les gens qui prêtent l'oreille sont aussi importants que les musiciens. C'est un partage, c'est 50-50. Je leur suis reconnaissant d'avoir créé leur musique, mais je suis certain que si je tombe sur Paul McCartney, il va me remercier d'avoir prêté l'oreille. Je suis un grand fan de John Lennon, mais je suis aussi un grand fan de Johnny Rotten et des Pistols. Quelque part, je me place au milieu. Je suis ni meilleur ni pire, mais j'aime le côté agressif de Johnny Rotten et de John Lydon. Tout comme j'aime le côté mélodique de John Lennon.
Et si je vous pose la question, Liam, c'est parce qu'il se trouve que ce nouvel album, le vôtre, il est placé sous le signe de cette figure tutélaire qu'est John Lennon. Le titre, Why Me, Why Not, il est emprunté à 2 dessins de Lennon. Faut nous raconter cette histoire.
Je suis un énorme fan, j'ai appelé mon fils Lennon. Je suis sainement obsédé par John Lennon.
C'est possible une obsession saine?
Je pense, ouais. Bien sûr.
Yeah, I think so. But anyway, going back to that.
En tout cas,
I was in Munich.
J'étais à Munich.
In Germany once, and
Je me baladais, et près de mon hôtel, je savais que Yoko Ono organisait une expo des dessins de John Lennon. Alors j'entre pour jeter un coup d'œil, et je tombe sur le « Why Me ?», un autoportrait, les bras ouverts, où il dit « Pourquoi moi ?». Je dis « Waouh !» J'achète le dessin. Et puis mon fils Lennon est né, et j'ai la chance de rencontrer Yoko Ono à New York, dans le Dakota Building, juste après la naissance. Et elle me dit, et tu crois pas qu'il va se faire harceler à l'école vu qu'il s'appelle Lennon? Et je lui réponds, pas autant que si je l'avais appelé Yoko. Enfin bref, je lui raconte que j'ai acheté le dessin, Why Me, et elle me dit, mais il y en a un autre qui va avec. Et elle me l'a envoyé. Et quand j'ai ouvert le paquet, j'ai découvert le Why Not. Et là, je me suis dit, quand mon frère et moi, on arrêtera le meilleur groupe anglais apparu depuis des lustres, je ferai une carrière solo et j'appellerai mon deuxième album Why Me, Why Not. Et j'aime ce titre, il est positif. C'est bien.
Vous répondrez quoi à cette question, vous d'ailleurs? Why Me, Why Not? Pourquoi moi, pourquoi pas?
Ça veut dire que tout est possible, pourquoi moi? Mais pourquoi pas? Dans la vie, on peut faire tout ce qu'on veut. On raconte qu'il faut avoir beaucoup de talent. Moi, je pense qu'on peut toujours y arriver. Il y a des gens qui sont nés pour écrire des chansons. Mais moi, je crois qu'en bossant, on peut devenir un bon compositeur, un bon cycliste, un bon poète, un bon peintre.
C'est quoi votre talent à vous, Liam Gallagher?
My best talent is keeping it real.
C'est de garder les pieds sur terre. De ne pas me laisser entraîner par le showbiz. Je refuse de jouer. Je n'aime pas les performers. Je suis anti-performance. Moi, j'aime monter sur scène pour me lâcher. Je suis pas comme Mick Jagger, je suis un punk, moi. Je veux chanter le mieux possible et éviter de me faire prendre dans les conneries de ce métier.
Votre force, c'est aussi de savoir vous entourer. Et je crois que pour ce deuxième album, vous avez voulu vous entourer encore plus. Vos chansons sont coécrites avec vos producteurs notamment. Pourquoi est-ce qu'on est plus fort à plusieurs?
Moi, je sais choisir des gens qui savent ce qu'ils font. Moi, je ne sais pas ce que je fais. Alors, j'ai pris ces deux mecs. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce que je dois faire. Et ça fait un bon album, je crois. Mais moi, je ne me considère pas comme un auteur de chansons. Si la musique pouvait s'écrire au maître, on ne serait pas là pour en parler. Je suis plus un chanteur. Et les deux mecs m'aident beaucoup, comme Simon Aldred aussi, qui a écrit « For What It's Worth ». C'est cette collaboration qui fonctionne bien pour moi maintenant. J'ai 47 ans, j'ai besoin de gens pour écrire avec eux. Si l'album est meilleur, c'est que c'est un travail collectif. Si je devais ne plus écrire, je ne sauterais pas par la fenêtre. Si je ne pouvais plus chanter, là je sauterais par la fenêtre. Chanter, c'est essentiel pour moi. Bien plus que de m'inquiéter de l'aspiration.
Quelles sont vos limites en tant que musicien?
Les mots, je crois. Je suis bon pour les mélodies. Je sais chercher avec une guitare, trouver un refrain et trouver le truc qui va le faire décoller. Je sais bien triturer un couplet. Les paroles, j'y arrive des fois, mais souvent pour une chanson, j'ai du mal à dire ce que je veux vraiment dire. Je me bagarre avec les mots, ça m'énerve. Maîtriser l'écriture, c'est arriver à dire ce que tu as à dire.
Après Oasis, il a fallu se réinventer.
Non, j'ai toujours été moi-même. Je suis bien dans ma peau.
Ça vous manque?
Ah oui, bien sûr. On n'aurait jamais dû se séparer. Mais je passe pas mon temps à réécouter les disques d'Oasis, hein. Mais elle me manque, cette époque. Je continue à jouer des morceaux d'Oasis dans mes concerts, alors j'ai encore ce plaisir. Les gamins viennent au concert pour s'éclater aux chansons d'Oasis. Bon. Après mon premier album solo, les gens étaient un peu perdus. Mais celui-là, dans quelques années, il y a des chansons qui deviendront peut-être des classiques. Mais j'éprouve toujours beaucoup de plaisir.
Vous avez conscience, Liam Gallagher, qu'il y a toute une génération et même plus qui rêve de les revoir sur scène Oasis?
C'est pas du tout d'actualité, faudra faire avec. Mais je suis un second choix acceptable. Plein de gens vont au concert de Noël parce qu'il a écrit les chansons d'Oasis, mais plein de gens viennent à mes concerts pour voir celui qui les chantait aussi. On a de la chance d'être vivant, de pouvoir jouer de nouveaux morceaux et des morceaux d'Oasis aussi. Il n'y a pas de problème.
Celle qui chante et qui nous fait chanter dans cette émission, qui n'a d'ailleurs, pour le dire franchement, absolument rien pour elle, au passage, c'est la culture. Et son actualité pauvre, vide et ingrate, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 19 septembre?
Je pense que j'ai une façon de dessiner qui est asiatique, oui. C'est-à-dire précise, très linéaire, même si la plupart du temps, les sujets ne sont pas du tout asiatiques.
très triste. Le peintre et dessinateur Pierre Le Tan s'est éteint hier. Il avait 69 ans, connu pour son trait mélancolique, élégant et discret. Il avait commencé sa carrière à 19 ans en dessinant des unes du New Yorker. Son goût pour les mots l'avait amené à illustrer nombre de couvertures d'ouvrages, et notamment celle de son ami Patrick Modiano. Ensemble, les deux artistes avaient même coécrit deux ouvrages, Memory Lane en 1981 et Poupée Blonde en 83. Paris de ma jeunesse, son prochain livre paraîtra en novembre aux éditions Stock. Salut l'artiste. .358, c'est le nombre de semaines qu'a passé l'album Good Kid, Mad City. 358 semaines, l'album de Kendrick Lamar dans le Billboard 200, classement hebdomadaire des disques les plus vendus aux États-Unis, un record de longévité qui pulvérise celui tenu jusqu'alors par The Eminem Show. L'album de Kendrick Lamar, sorti en 2012, est porté par des titres comme Bitch, Don't Kill My Vibe, Sing About Me ou alors I'm Dying of Thirst ou encore Swimming Pools, avait permis au rappeur de Compton de s'imposer comme le nouveau patron d'un hip-hop mélodique, introspectif et militant. C'est grand.
Je me devant une table, prendre une feuille de papier et se mettre à inventer des choses. C'est un acte un peu contre nature. Et puis, de prétentieux, ça devient humiliant parce que c'était jamais aussi bon que ce qu'on pensait. Jamais ce qu'on voulait écrire vraiment. Alors là, il faut s'obliger à continuer.
Sagan gagnant, vous l'entendiez ce matin chez l'ami Léa Salamé, les éditions Plomb et Denis Westhoff, le fils de François Sagan, réalise Le Bon Coup éditorial de la rentrée en publiant aujourd'hui Les Quatre Coins du Cœur, roman inédit de l'auteur de Bonjour Tristesse, disparu il y a 15 ans exactement. Tiré à 80 000 exemplaires, présenté comme violemment saganesque, le roman met en scène la passion d'une femme mûre pour le mari de sa fille. La légende veut que le manuscrit inachevé et incomplet ait été retrouvé dans les papiers de la succession.
Ce soir, France Inter crée l'événement.
La nuit de la pop culture, c'est ce soir.
Et puis pop en stock, ce soir les amis Charline Roux et Antoine Decaune investissent l'antenne de France Inter pour la première nuit de la pop culture au monde, en direct de Ground Control dès 21h, l'émission événement, première rencontre, concert, performance, surprise avec la crème de la culture pop, notamment Metronomy, Kiddy Smile, José Garcia, Bilal Hassani, Vincent Dedienne, Bénélope Bagieux, Éric Judor et beaucoup d'autres à ce soir 21h à base de pop 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 pop. Liam Gallagher, invité exceptionnel de Boomerang. Et l'année 2019, Liam, c'est pas seulement l'année de votre deuxième album, ni celle des 50 ans d'Abbey Road, c'est aussi celle des 25 ans de l'album qui vous a fait connaître avec Oasis, Definitely Maybe. Quelle place sentimentale est-ce qu'il a dans votre discographie, ce disque?
Oui, et puis ça fait 10 ans qu'on s'est séparés aussi, hein, et à Paris. Ça fait pas mal d'anniversaires, là. Heureux ou malheureux, mais c'est la vie.
I'm proud of Definitely Maybe.
Moi, je suis fier de Definitely Maybe. J'adore. C'est le premier disque de nous que les gens ont acheté. Et je suis fier d'être la voix d'une génération. C'est ce qu'on veut tous, hein. Il n'y a rien de pire que d'être ignoré. Les gens savent qui nous sommes et j'en suis fier. On a de la chance. Regarde Kurt Cobain. Il devient célèbre et il meurt. Nous, on est là, on peut en profiter.
Mais Liam, quel regard est-ce que vous portez sur celui que vous étiez il y a 25 ans?
J'ai de bons souvenirs. Je me rappelle, je devais avoir 21 ans quand Definitely Maybe est sorti. On n'était pas vraiment célèbre, même pas du tout. On n'avait pas de facture à payer. On n'avait pas de gosses, on traversait le monde comme des petits cinglés en buvant de la bière et en se donnant des airs.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, dans ces années 90 qui ont été si riches dans l'histoire de la musique britannique? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas ce qui s'est passé, c'était une bonne période avec beaucoup de bons groupes, il y avait beaucoup de merde aussi, hein, pour être franc. Une chouette époque, le monde a changé depuis. Les années 90, c'était bien. Mais aujourd'hui aussi, c'est bien. La vie est toujours belle, c'est juste différent.
Alors précisément, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous inspire, la scène musicale britannique?
Il n'y en a pas. Ils font tous du grime, hein, c'est ça? C'est ça qui emballe les gens. Bon, c'est pas mal. Mais en termes de musique en Angleterre, il n'y a rien du tout. Il y a beaucoup de groupes, mais ils sont tous chiants, quoi. Ils n'ont rien à dire.
Vous savez quoi, contre l'ennui, moi j'ai une solution. Bah, on se plonge pendant 5 minutes dans les années 90. Donc vous avez été l'incarnation, Liam Gallagher et Oasis, souvenez-vous, c'était quand même ça. Ça aussi, évidemment.
ça.
Allez, une dernière quand même. C'est quoi pour vous une bonne chanson, Liam Gallagher?
J'aime quand c'est simple. Si tu peux la jouer sur ta guitare acoustique sans toutes les fioritures, là tu tiens une bonne chanson. Perso, il me faut de la mélodie. Il me faut de la guitare. Les paroles, moi j'écris pas les textes et personnellement en tant que chanteur, il faut que ça s'entrechoque avec la mélodie. Peu importe ce que ça raconte. Les chansons d'Oasis racontent beaucoup de conneries. Mais c'est bien d'avoir une chanson qui a du sens, qui est profonde. Mais parfois, c'est pas mieux qu'une chanson qui ne veut rien dire. Hein. Avec du charabia. Tant que la mélodie est bonne.
Une chanson qui vous donne envie de chanter, en fait.
Envie de chanter, oui. J'aime bien la mélancolie aussi. Ça vous fait penser un petit peu au passé. Mais je sais pas ce qui fait une bonne chanson. Pour moi, c'est d'abord la mélodie. Si elle te rentre dans la tête, c'est bon.
Quand est-ce que vous avez découvert que vous aviez une voix, que vous saviez chanter?
Moi, j'étais branché football quand j'étais gamin. J'étais obsédé par le foot. Je me suis intéressé à la musique, mais plus tard. Je devais avoir 18, 19 ans. Je suis allé voir les Stone Roses et là je me suis dit, ah, c'est pour moi ça.
Vous n'avez jamais été enfant de cœur donc?
Non, jamais de la vie. J'avais envie, à cause du vin. Je pensais qu'on pouvait avoir du vin gratos.
Et puis j'aurais cru, moi, peut-être à Manchester. Vous y habitez encore à Manchester?
J'habite à Londres, mais mon cœur et mon âme sont restés à Manchester. Ma mère y vit, mes oncles, mes cousins, mais j'habite à Londres, avec mes gosses.
Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette ville de Manchester, que vous aimez plus que tout au monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous la plus belle ville au monde?
C'est les gens. C'est les gens qui font la ville. C'est comme une chanson, les gens sont la mélodie de la ville. C'est une belle ville, il pleut beaucoup. Manchester City, l'équipe de foot est super. Mais c'est les gens, ils sont drôles, ils se laissent pas faire, c'est des gens bien.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ça? Il paraît, Liam, qu'à un moment donné, vous vouliez être Premier ministre.
Non, mais je blaguais. Je suis beaucoup trop beau pour faire Premier ministre, surtout en Angleterre. Il faut être moche pour être Premier ministre chez nous.
Qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez petit, Liam, avant que vous vous intéressiez à la musique? Que le football?
Le foot et sortir le plus tard possible. Les fringues. Je portais des fringues trop chères pour moi. Des Adidas, des Lacoste, très français. Les fringues, être cool, courir les filles et jouer au foot.
Et qu'est-ce que vous ressentez?
Une racaille. Quoi.
Encore aujourd'hui, quand vous vous trouvez dans un stade pour un match, au milieu de la foule.
Ça a beaucoup changé. On ne peut plus chanter, danser, faire ce qu'on veut. Hein. Il faut être assis maintenant, hein, au match. Avant, on était debout. On criait, on hurlait. Mais pour en revenir à la musique, ça m'a sauvé la vie. Si je n'avais pas eu la musique, Dieu seul sait ce que je serais devenu.
Elle vous aurait sauvé de quoi, la musique?
Elle m'a donné une direction. Ça m'a fait voyager, faire des trucs, ça m'a donné le sentiment de faire partie de quelque chose. Tu peux toujours faire des conneries dans un groupe de rock, hein, mais la musique, c'est magique. Tu fais partie d'un truc et c'est pas banal.
Le plus grand moment de magie que vous ayez vécu, Liam Gallagher, dans un stade, puisqu'on en parlait, ce serait lequel?
C'était pas dans un stade, non. Les plus grands moments, c'est enregistrer de la musique. Un concert, c'est chouette et puis c'est fini. Si on n'avait jamais enregistré d'album, on en serait encore à nos petits concerts, mais être en studio, voir les chansons prendre vie, à partir de rien, ça c'est magique.
Vous avez un souvenir en particulier d'un moment de magie en studio?
Pas vraiment. Tout était bien. Rien qu'être en studio, c'était génial. Ça m'a stupéfié. Les concerts, c'est les concerts. T'en as des biens et les gens sont contents, bon, très bien. Mais voir une chanson prendre forme, changer, se transformer, s'épanouir. Ça, c'est passionnant.
Vous savez quoi, ça tombe bien, Liam, parce qu'on est dans un studio et je vais demander à tous les auditeurs de fermer les yeux et de s'imaginer avec nous dans ce studio tandis que s'élèvent les premières notes d'un titre qui résonne déjà comme un hymne. Ça s'appelle One of Us et c'est le deuxième extrait de votre nouvel album qui sort demain. Vous êtes sur France Inter, les bras en l'air. Vous écoutez Boomerang avec Liam Gallagher.
Hey kid, did you know today 16 years ago it was you and I for the last time. Said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side. Come on and all you want more, come on and open your door. After it all you'll find out, you were always one of us. Act like you don't remember, you said we'd live forever.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ah bon, on est quelque part entre le choriste rebelle, le punk à chien et un membre déchu de la famille royale. Ce serait un genre de prince Andrew qui aurait fait un sale coup, avec sa mine patibulaire, son regard bleu vert un petit peu vénère, son menton volontaire, cette façon qu'il a de vous dévisager comme s'il avait envie de vous donner un coup de boule ou un petit crumpet. Après tout, il est anglais avec sa parka imperméable. Ce matin, le chanteur Liam Gallagher, invité de Boomerang pour son nouvel album Why Me, Why Not. À quel moment, Liam, est-ce que vous vous êtes dit que vous aimeriez consacrer votre vie à la musique?
Quand j'ai vu les Stone Roses, ça m'a soufflé. C'était à Manchester en 89, leur album venait de sortir ou allait sortir. À l'époque, à Manchester, tout le monde était fringué comme les Smiths ou les Cure. Je sais pas si les Français aimaient bien les Cure, mais bon, quand on jouait au foot, tout le monde était en noir. Comme un vampire. C'était quoi ce bordel? tous en gothique. Et là, je vais voir les Stone Roses, et eux, ils étaient fringués comme des fans de foot. À la cool, anorak, basket, l'Happy Mondays, même chose. Ils s'habillaient comme les gens dans la rue. C'était la première fois. Ça m'a scotché.
Qu'est-ce qu'on écoutait quand on était petit, chez les Gallagher?
Mon père écoutait de la country irlandaise, beaucoup de musique irlandaise.
Et puis la musique qu'écoutaient vos frères, je suppose.
Il y avait donc pas mal de musique irlandaise à la maison. Noël écoutait les Pistols. Et Paul, l'aîné, il écoutait The Jam. J'entendais tout ça, The Jam, les Pistols, et puis les Smiths, UB40. Il y avait beaucoup de choses. Hein. The Style Council.
Et quand est-ce que vous avez commencé à vous émanciper, Liam, musicalement, en achetant vos propres disques?
Le premier disque que je me suis acheté, c'était les Stone Roses. Avant ça, Noël avait le Sally Cinnamon des Stone Roses, le 45 tours. Et quand leur album est sorti, j'étais obsédé, je suis toujours. Cette musique apportait du soleil à Manchester, il pleuvait plus, c'était fini. Avec cette musique, il y avait tout le temps du soleil. La vie restait merdique, mais tu passais le disque et ça te transportait vers un lieu ensoleillé. Dès que le disque était fini, il recommençait à pleuvoir.
Si ça se trouve, ça sert à ça, la musique.
Oh yeah, of course, powerful, man. Yeah.
Ah ouais, c'est puissant. La musique, ça t'emporte ailleurs.
It can take you to sad places.
Vers la tristesse, la mélancolie. Et c'est très bien aussi. Ça te donne le sourire. Ça te rend triste. Ça te fait remonter le temps aussi.
Vous diriez que vous êtes un mélancolique, vous, Liam?
Oui, un peu.
J'aime la mélancolie. J'aime les chansons tristes, les chansons gays, et les chansons qui donnent envie de tout casser aussi.
Si on revient aux origines, où est-ce que vous les achetiez, vos disques, vous vous souvenez?
Il y avait un magasin de disques qui s'appelait Sifters, sur Fog Lane. On pointait au chômage, on prenait notre chèque, je ne sais plus combien on avait, c'était pour deux semaines. On filait à la poste pour l'encaisser. Sifters était juste à côté, on s'achetait un disque des Beatles ou un autre disque. Et on y passait tout notre fric. On y passait aussi tout notre temps à regarder les pochettes. Ah tiens, celle-là, elle est cool. Même si tu savais pas ce que c'était comme musique, tu matais la pochette et tu prenais le risque d'acheter le disque. Si la pochette est cool, 9 fois sur 10, ce qu'il y a dedans, c'est pas mal cool aussi. Les mecs qui sortent un disque sans s'occuper de leur pochette, c'est à chier.
Bon, on en parlait au début de cette émission, vous vous faites très attention à vos pochettes d'albums.
Bah ouais, si ta musique est bonne, tu fais gaffe à l'emballage. Si tu regardes une pochette d'album et qu'elle est merdique, qu'elle a rien de bien, 9 fois sur 10, la musique à l'intérieur, elle est merdique aussi.
Bref,
on voyait une couverture qui nous plaisait, qui faisait cool, on se disait que la musique serait pas mal, parfois on tombait bien. Et puis on allait acheter du hashish chez le dealer d'à côté. Donc on prenait notre chèque, on achetait un disque, on achetait de la bœuf, de la bouffe, on rentrait chez nous, on mettait le disque et on se roulait un joint. Et ça faisait notre journée.
Alors, je ne vous demanderai pas si le dealer existe toujours, en revanche.
Sans doute que oui. Ou il doit vivre à Miami avec toute la bœuf qu'on lui a achetée. Hein. Il a une Bentley.
Ou est-ce que ce disquaire est toujours là?
Oui, Sifters existe toujours sur Fog Lane. 5 minutes d'où on habitait. On l'a filmé, la boutique, dans un des clips d'Oasis il y a quelques années.
Mais quel regard est-ce que vous portez sur la façon dont les jeunes générations écoutent et consomment de la musique en streaming, sur Internet, avec des playlists aujourd'hui?
Moi, je ne fais pas ça. Les gamins font ça, mais...
Votre fils, par exemple, qui joue du bongo sur le titre One of Us qu'on a entendu tout à l'heure, il achète encore des disques, lui.
C'est un bon batteur. Notre batteur, à nous, il était coincé dans un embouteillage le jour de l'enregistrement. Il nous fallait une piste de bongo. Et je dis à mon fils, tu ferais pas le bongo? Il avait le nez dans son téléphone avec ses copines. Je croyais qu'il serait fier d'être invité à jouer du bongo sur le disque de son père. Et lui, il fait, bon, d'accord. Où est le micro? Et puis il le fait, en une prise. Il reprend son casque et je dis « Mais c'est dément, t'as joué sur le disque de ton père !» Ouais, bof. Il reprend son téléphone pour parler aux filles. Je pensais qu'il serait fier, mais non. Aujourd'hui, c'est difficile de les impressionner.
Qu'est-ce qu'ils écoutent, vos enfants, à part la musique de leur père, évidemment?
Mon aîné, il écoute Black Midi, tu connais? Ou Fat White Family. Les autres, ils écoutent les Arctic Monkeys, Nirvana...
Straightforward
des trucs
kind of
plus,
stuff.
Plus simple.
And he's into the grime stuff.
Du grime.
Ils ont des bons goûts musicaux.
Oh yeah, it's not shit.
Ah ouais, c'est pas de la merde.
And then, my daughter's into, like, the
ma fille, elle est like dans les classiques là. The Streets.
The Stone Roses.
Les Stone Roses.
So yeah, they're all pretty good.
Ouais, ils ont bon goût.
Qu'est-ce que vous leur avez transmis, à votre avis?
My good
ma belle gueule.
My good luck.
Ma belle gueule.
Être un père, ça veut dire quoi pour vous,
fille? Oh, it's amazing, man. I love it, man.
J'adore ça.
Yeah, man, it's not. I mean, they're my mates more
c'est
than
des
anything,
copains
you know
plus qu'autre chose.
I enjoy the company,
j'aime
I enjoy
être avec eux, j'aime sortir avec eux.
And, we have good time
et on partage de bons moments hein, quand on est ensemble. J'ai l'impression qu'ils peuvent me parler de certains trucs parce que je suis passé par là. J'aime être avec eux.
On en parlait tout à l'heure, faire de la musique, ça peut sauver. Et vous, vous avez été sauvé par la musique d'une relation compliquée avec votre père.
Mon père, c'était une sorte de connard. Ça m'a bien plombé. Mais il ne me frappait pas, moi. Il tabassait Noël, Paul, ma mère. D'assister à ça, c'était ça l'horreur. Mais la musique, sortir, les concerts, c'était quelques heures de répit, quoi. Ça m'amenait ailleurs. Après, il fallait rentrer et retrouver mes emmerdes, mais ça m'aidait à m'échapper quelques heures.
Dans votre album, Liam, il y a une chanson qui m'a beaucoup ému, elle s'appelle Once. C'est celle dans laquelle vous racontez qu'il n'y a jamais deux premières fois. Mais moi, je vous pose quand même la question, s'il devait y avoir une chose que vous aimeriez refaire pour la première fois, ce serait quoi? Et ce sera ma dernière question.
I don't know, man.
Je sais pas. Tout a été beau. Ma vie, elle a été super. Faire partie d'Oasis, ça a été le meilleur. Non, je n'ai aucun regret. J'ai eu une vie fantastique.
Merci infiniment, Liam Gallagher, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci à votre interprète ce matin, le très oasisien Harold Manning. Je rappelle que votre nouvel album Why Me, Why Not sort demain et que vous serez en concert le 21 février au Zénith de Paris. On attend ça avec impatience. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Change what's been in.